soir, on va s'intéresser à une parole que Jésus a plusieurs fois prononcée. C'est une parole que, quand on tourne les pages de l'Évangile, on entend Jésus prononcer à plusieurs reprises. Et cette parole, cette phrase, c'est « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà lu ces paroles-là, vous les trouvez dans la bouche de Jésus. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Il serait plus juste de traduire cette phrase par « que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. » Parce que le verbe grec qui est utilisé là, c'est le verbe « akouo », ça a plus ce sens d'écouter ou même de comprendre. Dans « akouo », vous reconnaissez peut-être, hein, ça a donné les mots français, tout ce qui touche à l'écoute, à l'audition, acoustique, acousticien, acouphène aussi, les bruits désagréables qu'on peut avoir dans les oreilles. Bon, j'espère que ça ne vous concerne pas à votre âge, mais quand on avance en âge, ça arrive quelquefois là, qu'il y ait des choses désagréables qui se passent dans les oreilles, et on appelle ça des acouphènes. Bien, le mot akouo, il a vraiment ce sens d'écouter. Et je pense que la nuance entre entendre et écouter, elle est importante, notamment en français, parce qu'en français, il y a une différence entre entendre et écouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Si on voulait donner une définition de entendre, qu'est-ce que vous donneriez comme définition ?
Recevoir un bruit.
Recevoir un bruit. Oui, entendre. Est-ce que vous avez une autre définition à donner, une autre proposition à faire ? Ouais.
Percevoir un son.
Percevoir un son. C'est mot pour mot ce que j'ai marqué sur mon panier. Percevoir un son. Mais c'est ça, hein. Entendre, c'est percevoir un son. Juste percevoir un son. Par contre, écouter. Si on donnait une définition de écouter,
porter attention.
C'est ça la différence. C'est porter attention. Ça veut dire se concentrer, mobiliser son attention pour comprendre ce qui est dit. Il ne s'agit pas simplement de percevoir un son, il s'agit de vouloir comprendre. C'est là qu'il y a la différence vraiment entre entendre d'un côté et écouter de l'autre. Parce qu'il y a des choses qu'on entend, mais que l'on n'écoute pas forcément. J'imagine que les uns et les autres, dans vos activités, dans vos études, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, il y a des matières que vous aimez bien, puis des matières que vous aimez moins. Il y a des profs qui vous accrochent, qui vous passionnent, et puis il y en a d'autres, ils ont un peu plus de mal à vous accrocher, à vous passionner. Et il y a des choses, là vous êtes assis, vous êtes dans la classe, vous êtes dans votre promo, et puis vous pouvez très bien entendre, mais pas forcément écouter. Parce que là, ça passe pas, ça vous accroche pas. Là, je crois que ça parle à plusieurs. Hein. Je vois des sourires, ça parle à plusieurs. Vous voyez, ça c'est la différence entre entendre et écouter. Tu peux mettre de la musique aussi dans ta chambre pour t'accompagner. Il y en a qui font ça quand ils font leurs devoirs, quand ils font leur travail. Ils mettent de la musique, et il y a une musique qu'il a, et puis qui tourne en bruit de fond. Mais c'est juste un bruit de fond. C'est-à-dire que tu ne vas pas être concentré sur la musique, en fait, tu vas être concentré sur ce que tu fais, sur ton boulot. Mais la musique, là, tu l'entends, mais tu ne vas pas l'écouter. Il y a des gens qui font ça aussi sur leur lieu de travail. Mon grand-père, qui était menuisier, dans son atelier, quand il bossait, quand il travaillait avec ses ouvriers, il y avait toujours la radio qui fonctionnait, et puis ça faisait un bruit de fond. Mais il ne s'arrêtait pas, il ne s'assoyait pas pour écouter la musique, parce que ce n'était pas la chose principale qu'il devait faire à ce moment-là. Même chose, mon beau-père, hein, quand il travaillait, il était carrossier dans son atelier, il y avait la musique qui passait. Il entendait, mais il n'écoutait pas. Il y a des choses comme ça qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas. C'est comme quand tes parents te disent « il faut que tu ranges ta chambre ». Là, t'entends, mais t'as pas forcément écouté. Parce que toi, tu comprends, il faut que j'aille sur Internet. Voilà, c'est ça la différence entre entendre et écouter. Il y a plein de choses comme ça où il y a une nuance à apporter. Et ce que je voudrais qu'on puisse voir ensemble, évidemment, c'est qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et la première question que je voudrais qu'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce que Jésus veut que j'écoute ? Qu'est-ce que Jésus veut que nous écoutions ? Puisqu'il nous dit ça. Alors, ce qu'il veut qu'on écoute, c'est ce qu'il a à dire. C'est aussi simple que ça. Il veut qu'on écoute son message. Il veut là qu'on écoute ce qu'il a à dire, parce qu'au travers du message qu'il délivre, au travers de ce qu'il partage, au travers de ce qu'il communique, c'est Dieu qui parle. Au travers de Jésus, c'est Dieu qui se révèle. Donc c'est quand même pas rien de savoir que quand Jésus parle, quand Jésus délivre son message, en fait c'est le Dieu qui a créé le monde, c'est le Dieu qui remplit l'univers, c'est le Dieu infini et éternel qui parle et qui se révèle, qui montre comment il est et qui il est. C'est pas rien. Imaginez quelqu'un qui vient de nous voir, qui vient de vous taper pour l'épaule et puis dit « Hey, j'ai un message à partager avec toi, il y a quelqu'un qui veut te parler. » Ah ouais, qui ça ? Dieu. Dieu, celui qui a créé le monde, celui qui a créé l'univers. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire non, je vais voir ça dans 5 minutes ou je verrai ça quand j'ai le temps. Non, en fait, là, Jésus voulait vraiment interpeller ceux qui venaient l'entendre ou l'écouter, justement, pour qu'ils puissent être attentifs et se concentrer sur ce qu'il avait à dire, à partager. Il ne voulait pas simplement qu'on l'entende, il voulait qu'on l'écoute. Et il disait souvent que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute, parce qu'il désirait profondément que son message soit compris et appliqué. Quand tu prends l'avion, les hôtesses de l'air et les stewards qui sont à bord donnent des consignes de sécurité. Bon, il y en a plusieurs ici qui ont déjà pris l'avion pour venir en France ou pour partir dans un autre pays. Mais sur les vols internationaux, systématiquement, les hôtesses, elles font une espèce de petite gestuelle, une petite chorégraphie. Et elles vont donc dire comment tu dois accrocher ta ceinture, à quel moment tu peux l'accrocher, à quel moment tu peux la décrocher. Elles vont te donner toutes les consignes pour te dire où sont les sorties de secours. Alors c'est ça, c'est les gestes. Hein. Elle dit que là, il y a... Voilà, exactement, c'est tout à fait comme ça. Daphné le fait très bien. Et elle indique au sol, il y a des points lumineux pour justement indiquer où sont les sorties de secours. Elles te disent aussi que s'il y a dépressurisation dans l'avion, il y a le masque à oxygène qui tombe, c'est ça, donc elle le met, elle le montre pour voir comment respirer si ça arrivait. Elles te disent que si l'avion tombe dans l'eau, il faut que tu mettes ton gilet et t'as un cordon sur lequel il faut que tu tires. Et puis une fois que t'es dans l'eau aussi, elles te disent qu'il y a un sifflet pour justement pour que tu sois repéré. Elles te donnent plein de consignes de sécurité de ce genre-là. Moi, je suis très attentif. Hein, quand les hôtesses donnent les consignes de sécurité, je fais gaffe. J'ai encore pris l'avion le mois dernier sur un vol international. Et puis, donc, je ne le prends pas régulièrement et pas régulièrement, à peu près tous les 1 ou 2 ans. Et donc, il y a des trucs que j'oublie. Et donc, j'essaie de me remémorer, de me rafraîchir la mémoire. Alors, ce qui m'a embêté la dernière fois, c'est quand même le gilet de sauvetage. Parce qu'elle disait, le gilet de sauvetage se trouve sous le siège. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, si on tombe à la baille, c'est mal. Alors, heureusement, ce coup-ci, ça s'est bien passé. Mais j'aurais eu du mal. Donc, je pense que dans les premières classes, j'ai vu des vidéos, ils ont le gilet de sauvetage juste à côté de chez eux. À leur accoudoir, ils ont juste à soulever un truc et puis ils prennent le gilet de sauvetage. Mais quand t'es pauvre comme moi, que t'es dans la queue de l'avion, tu sais, la place à côté des toilettes, hein, c'était mon cas la dernière fois, bah, le gilet de sauvetage, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Donc ça s'est bien passé, heureusement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pendant que les hôtesses donnaient les consignes, il y avait des personnes qui écoutaient juste les premières consignes, et puis au bout de quelques secondes, au bout d'une minute, ça y est, elles lâchaient, elles étaient passées à autre chose, elles pensaient à autre chose, elles parlaient avec leurs voisins, s'occupaient de leurs enfants. Et puis il y en avait même carrément d'autres qui ont absolument rien écouté. Les hôtesses, elles étaient en train de faire leur jet, de donner leurs consignes, leurs explications. Mais ces personnes-là, elles étaient en train d'envoyer des textos, le dernier texto avant de se mettre en mode avion, justement. Elles étaient en train de déjà commencer à travailler à l'ordinateur ou à mettre le truc sur les yeux pour rien, ils écoutaient rien du tout. Et je me suis dit, mais si l'avion avait un problème, on ferait vite la différence entre ceux qui ont seulement entendu et ceux qui ont vraiment écouté. C'est pour ça que je pense que c'est plus important d'écouter que d'entendre. Parce que Jésus, il a transmis des consignes de la même manière. Sauf que les consignes qu'il a transmises, c'est pour notre sécurité éternelle. Il a dit, il a indiqué comment on pouvait être sauvé. Il a indiqué comment on pouvait avoir la vie éternelle. Il a indiqué là comment on pouvait avoir une vie épanouie, une vie heureuse. Et quand Jésus prêchait, il ne voulait pas que ceux qui l'écoutaient passent simplement un bon moment. Vous avez des super prédications de Jésus dans les évangiles. Et il y en a une en particulier qui est assez impactante, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, entre le chapitre 5 et le chapitre 7. Voilà, une super prédication qu'il fait sur la montagne. Et imaginez un peu les différentes réactions qu'il a pu avoir une fois que Jésus a terminé son enseignement, une fois qu'il a transmis son message. Il a terminé, amen, ça y est. Il y en a certains qui sont descendus de la montagne, et certainement ils pouvaient se dire... Waouh, Jésus, mais quel prédicateur! J'ai passé un super moment. Vraiment, ça valait le coup de prendre du temps, ça valait le coup de venir. J'ai vibré, ça m'a touché au plus profond de moi-même. Quand il parlait, j'ai eu tous les poils du corps qui se sont hérissés. Là, j'ai des courants électriques que j'ai sentis partout en moi. J'ai vraiment passé un excellent moment. Là, c'est vraiment un moment d'émotion. Il pouvait y avoir des gens comme ça qui ont vécu un bon moment d'émotion. Il y en avait d'autres qui pouvaient être satisfaits intellectuellement. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Il ne voulait pas simplement que les gens soient satisfaits émotionnellement. Il ne voulait pas non plus qu'ils soient simplement satisfaits intellectuellement. Les gens qui, en redescendant de la montagne, disaient « Waouh, la prédication de Jésus a été super bien construite. » Là, je trouve quand même qu'il y avait un bon équilibre entre chaque partie, la partie 1, la partie 2. Cette construction en chiasme était excellente. Les illustrations étaient parfaitement choisies. Le coup de la paille et la poutre, c'était comme ça, c'était génial, ça parlait, c'était extraordinaire. Ok, toi, intellectuellement, être satisfait intellectuellement. Et quand Jésus prêchait, il ne voulait pas que les gens soient non plus satisfaits religieusement. Il pouvait y avoir des gens qui redescendaient de la montagne, puis qui disaient « Oh, ouais, ça y est, là, j'ai pris du temps pour écouter Jésus. D'ailleurs, ça a été un peu long. » Là, c'était entre 5 et 7. J'ai écouté Jésus pendant deux chapitres. Mais bon, ça y est, maintenant c'est fini. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis bon, je reviendrai la semaine prochaine. Alors j'espère qu'il sera au même endroit. J'espère que ce sera à la même heure. Et puis en attendant, voilà, je vais passer à autre chose. En fait, ce n'est pas ce que Jésus voulait. Lui, il voulait être écouté. Parce qu'il y a un enjeu, il y a un véritable enjeu quand Jésus parle. C'est de communiquer le message du salut. Il y a un véritable enjeu quand Jésus parle. C'est celui-là d'avoir en soi une parole qui va faire la différence, qui va changer la vie. Une parole qui peut nous transformer, qui peut changer la vie des gens, qui peut faire qu'un cours, elle va prendre un autre cours. Il y a un enjeu dans ce que dit Jésus, parce qu'il nous fournit des fondations solides pour avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, il faut écouter ce que dit Jésus. Il faut être à son écoute. Pour savoir comment avoir de bonnes relations, des relations de qualité avec tes amis, avec les gens avec qui tu travailles, si t'es dans le monde du travail, avec tes parents, avec ta famille, eh bien là, il y a des choses que Jésus dit pour ça. Il donne des repères, il donne des fondations. Et c'est ce qui nous permet, si on l'écoute, de recevoir. C'est ce qui nous permet de recevoir ces fondations. Quand Jésus parle, il y a un enjeu, parce qu'il nous dit comment avoir la foi. Il nous dit comment prier Jésus. Il nous apprend comment prier Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu va pouvoir agir dans notre vie parce qu'au travers de son enseignement, on va avoir ce qu'il faut pour que Dieu entende nos prières. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute, écoutez bien. Parce que c'est aussi ce qui se passe pour nous. Quand la parole est prêchée, ça peut se passer pour nous. On peut entendre, mais pas écouter. La parole, ça peut être un bruit de fond. La parole, ça peut être une consigne que tu connais, qui est rabâchée. Peut-être que comme les gens qui ont l'habitude de voyager, et puis à chaque fois qu'ils prennent une place dans l'avion, bah, ils savent exactement ce que l'hôtesse va dire, ce que le steward doit dire, et puis c'est comme une musique, et puis ils font plus attention. Et c'est la même chose qui peut se produire par rapport à la parole. On peut, là, ça peut devenir comme une consigne qui est rabâchée, qui est répétée. C'est comme une petite musique de fond, une petite musique à laquelle on est habitué. Ça peut être quelque chose qui peut être juste une stimulation, mais momentanée, ça va durer le temps où tu l'écoutes. Ou juste la soirée et juste là, l'heure qui va suivre, le moment où tu l'as reçu. Tu peux vivre la parole comme ça. Alors que l'enjeu, il est là, c'est comment avoir la vie éternelle. L'enjeu, c'est comment exercer ma foi le mieux possible. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être changé en moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Pour rompre la monotonie et le côté répétitif des consignes, vous avez des équipes d'hôtesses et de stewards qui se donnent de la peine, qui font des efforts, ils essayent d'inventer des trucs et des machins. Et on va voir un exemple, notamment sur une compagnie asiatique, où ils ont essayé là, de donner un peu de vie aux consignes. Moi, j'ai jamais vu faire comme ça. Mais c'est bien, c'est sympa. Ouais. Ceux qui ont déjà pris l'avion, vous avez déjà vu faire ça? Moi, j'ai toujours eu la formule monotone, le truc bien répété. Mais il y en a, on voit quand même, ils essayent de faire des efforts. Ils essayent de mettre une forme qui est différente pour que les personnes soient attentives et puissent recevoir les consignes de sécurité. Alors, il peut y avoir un peu le même phénomène aussi si on met les choses sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre de la forme pour que ce message puisse être reçu. Mais le problème, c'est que quand tu t'attends à la forme plus qu'au fond, c'est peut-être que tu es plus habitué à entendre qu'à écouter. Si ce qui t'accroche, ça va être la forme, là, tu n'es pas dans la démarche de l'écoute. En tant que prédicateur, j'avoue, j'essaie quand même de soigner la forme, de faire en sorte que le message il soit accessible, il soit compréhensible. Et c'est important, évidemment, que le contenu de la parole puisse être bien compris. Donc, c'est important de faire ça. Mais c'est pas l'essentiel, c'est pas ça l'essentiel, parce que l'essentiel c'est le contenu. Le problème c'est que si on s'attend trop à la forme, bah tu peux être accroché par la forme, mais soit c'est creux à l'intérieur, ou alors soit c'est pas vrai. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut entendre, c'est pour ça qu'il faut écouter, parce que ce qui est important c'est de recevoir le message de Jésus, et que ce que tu reçois ce soit conforme à l'enseignement de Jésus. L'essentiel c'est le contenu, et ça ne peut être saisi que par l'écoute. La phrase de Jésus, que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute, elle est à l'impératif. Le verbe, il est conjugué à l'impératif. Et il est sur le mode actif. Ça veut dire que Jésus veut impliquer celui qui écoute. Et ce qui signifie qu'au final, la réception du message, elle ne dépendra que de toi. Elle ne dépendra que de ton désir d'écouter, que de ta volonté d'écouter, que de la concentration que tu feras, que tu utiliseras pour écouter. Il y a une relation immédiate entre écouter et être impacté. Cette parole, pour qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, cette parole pour qu'elle puisse nous apporter les guérisons dont nous avons besoin, que ce soit nos blessures, nos tristesses, toutes ces choses, notre passé, cette parole pour pouvoir nous changer, nous transformer dans les phases, dans les aspects de notre caractère où il y a besoin que ce soit changé, elle ne pourra porter du fruit que dans la mesure où je l'écouterai. Il y a un contact direct entre le fait d'écouter et d'être impacté. Et la deuxième question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce qui me motive à écouter? Vous avez remarqué que les personnes avec lesquelles on n'accroche pas trop, les personnes avec lesquelles on n'a pas trop d'atomes crochus, comme on dit, qu'on n'apprécie pas trop, les personnes avec lesquelles on n'a pas forcément d'affinité, on a du mal à les écouter. Quand elles prennent la parole, quand elles ont quelque chose à dire, il y a une espèce de barrière naturelle qui se met en place. Bon, voilà, elle peut dire quelque chose, ça peut être peut-être même intéressant, mais on ne va pas être tellement bien disposé. Alors là, à ce moment-là, peut-être qu'on va l'entendre, mais qu'on ne va pas forcément l'écouter. Par contre, les personnes qu'on apprécie vraiment, les personnes qu'on aime, les personnes avec qui on a vraiment un bon relationnel, ces personnes-là, on les écoute et on est attentif à ce qu'elles disent. Et je vais vous parler de personnes, justement, si on va dans l'évangile de Luc au chapitre 15, Et au tout début de ce chapitre, au verset 1, il est question de personnes qui ont eu le désir de se rendre compte par elles-mêmes de qui était Jésus. On nous a dit que les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Vous avez cette précision dans le texte où il nous est dit que ces personnes s'approchaient de Jésus. Ça signifie qu'elles ne se sont pas contentées d'entendre dire des choses sur Jésus. Elles ne se sont pas arrêtées à la rumeur, parce qu'on parlait beaucoup de Jésus hein, quand il prêchait, et il y avait des rumeurs positives, il y avait des gens qui disaient « Waouh, c'est extraordinaire, quand il prêche, ça nous touche, c'est vraiment une parole d'espoir. Quand il y a des malades, il prie pour les malades, et puis les malades sont guéris. » Il y avait des rumeurs qui étaient très positives, et puis il y avait des rumeurs négatives, d'autres personnes qui étaient beaucoup plus réservées, on va en reparler dans un instant, qui disaient moi, ce gars-là, ça m'étonnerait qu'il soit envoyé par Dieu, parce qu'il y a une drôle de conception du sabbat, de la loi. » Donc il y avait beaucoup plus de réserves. Donc ils entendaient ça, des rumeurs positives, des rumeurs négatives, il y avait la réputation de Jésus, mais ils ne vont pas simplement se fonder sur ce qui est dit à propos de Jésus, ils vont faire une démarche volontaire et personnelle pour rencontrer Jésus. Ils vont s'approcher de Jésus. Les gens dont il est question, il nous a dit que ce sont des collecteurs d'impôts, des publicains et des pécheurs. Et ça, c'était des personnes qui étaient mal vues. Les collecteurs d'impôts... C'est difficile d'être populaire quand t'es collecteur d'impôts. Je veux dire, si t'as envie d'être aimé, c'est peut-être pas forcément le métier qu'il faut faire. Parce que tu réclames de l'argent aux gens, tu te sers au passage, enfin, c'était le système de l'époque. Il fallait demander beaucoup d'argent pour pouvoir se faire sa propre marge. Et en plus, l'argent, des fois, il était récolté pour les Romains, des étrangers qui avaient établi leur domination sur le pays d'Israël. Alors, pour être aimé, c'était pas le métier, c'était pas l'activité qu'il fallait. Les pécheurs, c'était ceux qui connaissaient pas très bien les Écritures, c'était ceux qui connaissaient pas très bien la loi. Et donc ils étaient un peu, par rapport aux autres, comme les pharisiens qui connaissaient bien la loi, ils les prenaient un peu de haut et ils les mettaient un peu à l'écart, les autres. Eh bien, ces gens-là qui étaient mal vus, ce qui a fait la différence et ce qui les a touchés, c'est qu'elles ont été accueillies par Jésus. Jésus les a accueillies, il les a même accueillies à sa table parce qu'ils ont mangé ensemble. C'est ce qu'il nous est dit dans le texte. Il s'approchait de tous de lui pour l'écouter. Et on voit au verset suivant, au verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient, ils disaient, cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors pour les pharisiens, c'était un scandale parce qu'eux, ils étaient tellement soucieux de pureté qu'ils avaient mis en place des rites très précis avant de se mettre à table. Et pour être sûr de ne pas contracter d'impureté, ils ne mangeaient qu'entre pharisiens. Tous ceux qui ne respectaient pas les mêmes codes de pureté avec eux, ils n'avaient pas de relation avec eux. Mais eux, au contraire, ils n'étaient pas critiqués, ils n'étaient pas jugés, ils étaient accueillis par Jésus. Et forcément, ça les a conduits à apprécier Jésus, à aimer Jésus et à l'écouter. Et s'ils sont à table ensemble, c'est parce que Jésus est en train de leur parler, Jésus est en train de les enseigner. Et c'est ça qui fait réagir les religieux qui n'aimaient pas ça, les pharisiens et les scribes, ils disent « Waouh, c'est pas normal, ce genre de contact, ce genre de relation, c'est pas bien. » Alors Jésus va raconter une histoire aux personnes qui critiquent ceux qui viennent l'écouter. C'est la fameuse parabole de la brebis perdue. On va la lire ensemble, c'est les versets qui suivent, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Alors il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ?» Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est l'histoire d'un berger qui a quand même un troupeau assez important, puisque c'est un troupeau qui compte 100 brebis, c'est quand même pas mal. Et ce berger, il se rend compte que son troupeau n'est pas complet. J'imagine qu'on est arrivé à la fin de la journée, et puis il veut faire un point, il veut être sûr qu'il a bien récupéré toutes ses brebis, il les a gardées dans le désert pendant plusieurs heures, pendant toute la journée, et puis il commence à compter ses brebis. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, bougez pas, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Ah, ouais, ok, j'ai envie de 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vous dites rien, vous êtes sage. Hein. Il ne va pas le faire. 78, 79, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Mince. Il en manque une. Tu dis, oh, peut-être je me suis trompé, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, bouge pas, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 95, 96, 97, 98, 99. Mince, a priori, il en manque vraiment une. Mais pour être vraiment sûr, je vais recompter. 1, 2, 3... Ok, d'accord, j'arrête. Il en manque une. Mince, il manque une. Une brebis sur 100. On se dit, la perte, elle n'est pas énorme. Je suis nul en maths, mais là, je sais qu'il a 1% de perte. 1%, hein, je crois pas me tromper, je ne dois pas être loin de la réalité, de la vérité. Moi, la matière que j'avais du mal à écouter, c'était les maths, hein, quand j'étais à l'école. Mais là, 1% de perte. 1% de perte, c'est pas énorme. Peut-être qu'on peut s'autoriser 1%. Et puis, quand même, si la brebis, elle s'est perdue, c'est vraiment qu'elle était indisciplinée. C'était une brebis capricieuse, c'était une brebis inattentive. Vous savez que la particularité d'un mouton ou d'une brebis, c'est que c'est un animal qui n'a absolument pas la possibilité de vivre tout seul. Une brebis qui s'égare, elle est pratiquement vouée à mourir, à disparaître. Elle ne peut survivre que si elle fait partie d'un troupeau et que s'il y a un berger qui s'occupe d'elle, ou de lui, du mouton. Il n'est pas équipé, il n'a pas assez de force pour pouvoir lutter contre les autres animaux. Au niveau de la chaîne alimentaire, il n'est pas très loin de la base. Donc il n'a aucun moyen de s'en tirer tout seul, le mouton qui est perdu. Alors, si vraiment il s'est perdu, c'est que c'était une brebis indisciplinée. Et le berger, il aurait pu se dire, mais tant pis pour elle. Moi, je ne vais pas me fatiguer à partir dans le désert à m'écorcher les pieds, à transpirer sous le soleil. Alors, en plus, peut-être la nuit, elle commence à tomber, ça peut être dangereux. Je ne vais pas me fatiguer à aller chercher cette brebis. Elle mérite ce qu'elle a. Et en fait, c'est tout le contraire. Le berger, il part, il se met à la recherche de la brebis. Il laisse les 99 autres dans le désert, c'est ce que dit le texte. Alors, j'imagine qu'il y avait d'autres personnes là qui étaient pour... qui pouvait garder les 99 autres moutons, et il part dans les endroits escarpés de ce désert d'Israël pour récupérer la brebis, parce que cette brebis, elle peut tomber dans un ravin, elle peut se bloquer le pied entre des pierres, elle peut se faire dévorer par une bête sauvage, ou alors elle peut mourir de soif, tout simplement. Ça lui coûte au berger. Mais le berger, il est prêt à mobiliser toutes ses ressources pour atteindre son but, pour atteindre son objectif, qui est de retrouver la brebis égarée. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion avec Sandrine d'aller faire une promenade, d'aller faire une balade dans le désert d'Israël, le désert de Juda qui se trouve au sud d'Israël. Et d'ailleurs, quand on a fait la promenade, on a vu au loin un troupeau. Alors c'est pas un troupeau de moutons, c'est pas un troupeau de brebis, c'est un troupeau de chèvres, ça. Et parce qu'il y a des bédouins qui habitent dans la région d'ailleurs, et ils ont des chèvres. Le berger, vous voyez, il est là, il n'a pas l'air super attentif, ce berger-là. Il est assis, il a le dos tourné, il ne regarde pas son troupeau. Mais voyez un peu à quoi ça ressemble le désert de Judée. C'est un désert assez rocailleux, il fait très chaud, je ne sais pas comment vous dites, mais au 45 degrés minimum. Quand on y allait, on était allé se balader sur un site archéologique. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site archéologique, c'est, peut-être vous en avez déjà parlé, c'est un site qui s'appelle Qumran. Et c'est un site sur lequel on a retrouvé de nombreux manuscrits dans les grottes qui sont autour de Qumran. Tu connais, t'as entendu parler de ça, ouais. Et on a retrouvé notamment des manuscrits bibliques. Et puis, quand donc on a visité, on s'est baladé un peu dans les vestiges archéologiques, de là où ont été recopiés les manuscrits. Et puis, j'avais vu, au loin, on voit des grottes, là où on a retrouvé les manuscrits. Donc, toi, ça ressemble un petit peu à ça sur le côté. Là, on voit des grottes. Et je me suis dit, oh, c'est quand même dommage d'être si près et puis de ne pas pouvoir voir de mes yeux les grottes où ont été retrouvés ces fameux manuscrits. Alors, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Sandrine, elle a dit, bon, tu y vas si tu veux. Sandrine, elle était déjà cuite. Il n'y a plus qu'à la retourner pour que l'autre côté puisse cuire. Et alors, je suis parti avec ma gourde, mes tennis aux pieds. Et je me suis engagé dans le désert. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à un endroit comme celui-ci. C'est la photo d'après. Donc, tu vois, la particularité du désert de Judée, c'est que c'est un désert de pierre. Ce n'est pas un désert de sable avec des étendues comme ça à perte de vue, mais c'est rocailleux, avec des gros rochers, des petits rochers. Et au bout de 30 minutes, j'ai fait demi-tour. Je me suis dit, c'est même pas la peine, je ne vais pas m'engager là-dedans, parce que j'avais une petite gourde qui était grande comme ça, parce que le sol n'était pas stable, parce que c'était, comme je viens de vous le dire, c'est des pierres par terre. Et je me suis dit, mais là, si j'avance, et puis que je me tords la cheville, que je tombe, ben, je pourrais crier toutes mes forces, il n'y a personne qui m'entendrait. Et je me suis imaginé, justement, là, vivre cette situation. Je me suis dit, là, c'est bon, là, je me tends la cheville, je tombe, je me fais mal, personne ne me trouvera, je vais dessécher au soleil, on va me retrouver, je serai décharné, mes couleuvres sortiront par ma bouche. Je me suis dit, non, je ne vais pas infliger ça à mon épouse. Donc, j'ai rebroussé chemin. Il y a un système d'alerte, qui s'est mis, qui s'est vraiment mis automatiquement en route là dans mon cœur, hein, parce que voilà, c'est ça le désert. C'est dans ce genre de décor que la brebis s'était perdue, et c'est dans ce genre de décor que le berger va essayer de la retrouver. Et le berger retrouve la brebis. Alors j'imagine dans quel état il l'a retrouvée. Elle devait être fatiguée, éreintée, écorchée, assoiffée. Et le berger, à ce moment-là, nous dit le texte, la prend sur ses épaules, il redescend péniblement la montagne, là, en faisant attention lui-même de ne pas se tordre la cheville, avec le mouton, la brebis sur les épaules. Et l'opération de sauvetage devient une occasion de fête, parce qu'il nous est dit que quand il est arrivé à destination, il a averti tout le monde et a dit « on va faire la fête parce que j'ai retrouvé ma brebis, je l'ai sauvée ». Le berger, il est motivé, parce que la brebis a énormément de valeur à ses yeux. Ce n'est pas une brebis parmi tant d'autres, parce qu'on a lu ensemble, il dit au verset 6, « J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il en a 100, mais cette brebis-là, c'est sa brebis, ma brebis. Et ça montre vraiment toute la valeur qu'il apporte à cette brebis. Et je crois que c'est ça qui est important qu'on réalise. Et c'est ça qui peut motiver notre écoute. C'est ça qui peut faire que on peut se dire, là je me dispose à recevoir, je me dispose à écouter ce que Jésus a à me dire. Parce que tu as une énorme valeur aux yeux de Dieu. Ce que le berger a accompli pour la brebis, c'est ce qu'il accomplit pour chacun d'entre nous. L'amour que ce berger a pour cette brebis, c'est vraiment la manifestation, l'illustration de l'amour total et du don total que Dieu est prêt à faire pour manifester son amour à ton égard. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous avez remarqué comment la parabole met beaucoup plus en avant Dieu qui fait tout pour retrouver celui qui est perdu que la conversion de celui qui est perdu. La conversion, en grec, c'est métanoïa, ça veut dire passer d'un état d'esprit à un autre. C'est ça le sens. Et c'est vrai que quand là tu réalises que Dieu t'aime, ben, ça fait carrément changer tes pensées. Forcément, tu es attentif à ce que Dieu a à dire. Tu es attentif à ce que Jésus a à dire. Jésus veut faire comprendre au travers cette histoire que Dieu met tout en œuvre. Il met toutes les ressources qu'il a pour nous chercher les uns les autres, pour venir nous trouver là où on est. Il y a une vingtaine d'années de cela, il y a eu une guerre terrible. C'est la dernière guerre qui a déchiré l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un conflit qui a éclaté en Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, notamment un conflit qui a fait que les Serbes d'un côté et les Bosniaques de l'autre se sont affrontés. Ça a été une guerre terrible, je crois qu'il y a eu plus de 300 000 morts, qui a eu lieu là, en plein cœur de l'Europe, dans les Balkans. Et la guerre, elle a duré 3 ans, entre 1992 et 1995. Et elle a fini par se terminer parce que les Américains sont intervenus au travers de l'OTAN. Et lors de cette guerre, il y a un pilote qui s'appelle Scott O'Grady, qui a vécu une expérience assez forte et assez terrible. C'est un chrétien d'ailleurs, ce gars-là. Il se trouve qu'il faisait des... Il y a sa photo, voilà, c'est lui. Il y a même un film qui a été tiré de son histoire, peut-être que vous l'avez vu, que vous connaissez ce film, En territoire ennemi, avec Owen Wilson. Et c'est l'histoire, enfin c'est une adaptation, ça ne raconte pas les choses exactement comme ça s'est passé, mais Scott O'Grady, il était pilote de l'aviation américaine et il faisait une mission de reconnaissance au-dessus de la Bosnie. Et au cours de cette mission de reconnaissance, ça s'est passé en juin 1995, il a été atteint par un missile qui a été envoyé par les Serbes. Le missile a percuté son avion a été détruit, il a eu le temps de s'éjecter avec une petite radio, et puis il a atterri sur la cime des arbres qui étaient en dessous. Et alors qu'il était sur la cime des arbres, il s'est aperçu que les Serbes qui avaient tiré le missile se précipitaient sur le lieu du crash pour essayer de le retrouver, parce que lui, il s'était éjecté, ils avaient vu, et il avait vu qu'ils étaient en train de s'approcher de la zone où il était tombé. Alors, il n'a pas fait de bruit, il est descendu des arbres, il s'est camouflé, il a mis des feuilles sur sa tête, il s'est mis de la boue sur la figure, et puis il s'est enterré pour se cacher sans faire absolument aucun bruit, pour ne pas être trouvé par les ennemis. Il avait une petite radio, mais il ne pouvait pas utiliser sa radio parce qu'il savait que comme les Serbes étaient dans les environs immédiats, s'il utilisait la radio, ça allait s'entendre. Et s'il était entendu, il allait être localisé, il allait être capturé. Et il s'est rendu compte que sa batterie, il n'avait que 7 heures. 7 heures d'autonomie. T'imagines, tu te mets à la place du gars quand même, se retrouver en territoire ennemi avec simplement 7 heures de batterie et puis une armée qui est en train de te rechercher. La seule façon qu'il avait de pouvoir essayer de communiquer avec les personnes qui pourraient venir le secourir, c'était de brancher la radio par intermittence. Mais lui, il ne pouvait pas parler. Il fallait, parce que s'il parlait, il risquait d'être localisé. Donc il branchait la radio par intermittence pour capter la voix de ses compatriotes, des Américains, et pour pouvoir justement bénéficier du fait qu'il était localisé pour envoyer un message de détresse. Sauf que ça a mis du temps. Et ce n'est qu'au bout de 6 jours, qu'il va recevoir un appel qui va changer les choses. Pendant 6 jours, il s'est caché, il n'a pas parlé, il a bu de l'eau croupie, de l'eau qu'il y avait dans des flaques, de l'eau de pluie, il a mangé de l'herbe, de la végétation, il a mangé des fourmis, des insectes, pour pouvoir survivre. Et au bout de 6 jours de ce régime-là, à ramper par terre, à se cacher, il a reçu un message. Il reçoit un appel auquel il va se précipiter sur sa radio et là il va répondre. Il va dire « Je suis vivant, c'est bon, je suis là ». Et donc là, quand son collègue qui était dans l'avion l'a entendu, il était super content, il était heureux et il a pu le localiser. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Scott O'Grady était localisé, il a fallu juste 5 heures pour envoyer toute une troupe qui allait sortir Scott de la situation dans laquelle il était. 5 heures plus tard, il y a 40 avions qui ont été mobilisés. 40 avions pour pouvoir assurer des relais radio, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure avec Scott O'Grady qui était au sol. 40 avions pour pouvoir assurer le repérage au sol avec des radars et toutes ces choses-là. Plus 2 hélicos avec un total de 82 soldats, 41 soldats dans chaque hélico, 41 Marines dans chaque hélico. Et tout ça avec le soutien de 2 porte-avions. Et c'est ce qui fait que 5 heures après, les 2 hélicoptères vont pouvoir se poser là où était Scott O'Grady. Il avait donc du coup mis des fumigènes pour pouvoir être localisé. Vous avez 41 Marines qui sont descendus, qui ont fait un cercle autour de lui, parce que les Serbes, du coup, quand ils ont vu tout ça, ils sont arrivés. Et c'est sous le feu que Scott O'Grady a pu monter dans l'hélicoptère et pouvoir se sortir de cet enfer qu'il a vécu pendant 6 jours. Vous avez 41 gars qui ont fait un bouclier pour pouvoir le sauver. Le coût total de cette opération de sauvetage, ça a été 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Ce gars-là, Scott O'Grady, la seule manière qu'il pouvait se sortir de la situation dans laquelle il était, c'était d'écouter. Il fallait qu'il écoute la radio. Il fallait qu'il se branche sur la même longueur d'onde que celui que la troupe qui pouvait le sauver. Écoutez. Il avait que ça pour lui. Et à partir du moment où il était localisé, à partir du moment où la communication était établie, il y a des ressources énormes qui ont été mises en jeu pour aller le sauver. 6 millions de dollars et des tas d'hommes. C'est exactement ce qui se passe pour nous sur le plan spirituel. La seule manière de pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner pour notre salut, pour notre bonheur, pour notre épanouissement, c'est d'écouter. Écouter, recevoir la parole dont on a besoin. L'ultime ressource que Dieu a mobilisée pour sauver les hommes, c'est Jésus, son fils, qu'il avait de plus précieux. Mais Dieu, il a mis le paquet. Il a tout mis pour venir nous chercher. Il a tout mis pour venir nous parler. Il a manifesté tout l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous en nous envoyant son Fils. Son Fils, par amour pour nous, a accepté de mourir à la croix. Là, normalement, la mort, elle devrait nous tomber sur nous, parce qu'on est pécheurs, parce qu'on fait le mal, parce qu'on pense le mal. Jésus dit, moi, je vais prendre la place des hommes, je vais prendre la place de l'être humain, prendre la place des femmes, pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Jésus a accepté ça. Ça montre l'immense valeur que nous avons aux yeux de Dieu, l'immense valeur. Vous avez vu la valeur qui a été accordée à Scott McGrady, 6 millions de dollars pour une vie. Imaginez ce que Dieu est prêt à manifester, lui, qui est l'amour parfait pour chacun d'entre nous. Ce qu'il est prêt à vouloir donner, à vouloir communiquer pour venir nous chercher là où nous sommes. Je pense que Jésus mérite d'être écouté. Si vraiment on réalise ça, si vraiment on reçoit ça, mais comment on peut faire autrement que d'écouter Jésus? Comment on peut faire autrement que d'avoir des oreilles pour écouter Jésus? On va réfléchir à ça ensemble, dans ce qui a été partagé, dans ce qu'on a pu voir et partager ensemble ce soir. Qu'est-ce qui nous interpelle particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin encore de réaliser, quelque chose qu'on a besoin de recevoir? Je pense que si on s'aperçoit que on est seulement là pour entendre, c'est peut-être le moment de se dire, bah, je vais arrêter d'entendre, mais je vais commencer à écouter. Simplement disposer son esprit autrement, faire les choses autrement, vivre les choses autrement. Faire en sorte que cette parole à laquelle on est habitué, ça n'est pas simplement qu'une musique de fond. Faire en sorte qu'on ne reçoive pas ça comme les gens qui prennent place dans l'avion reçoivent des consignes qu'ils ont l'habitude d'entendre et se dire, je vais écouter parce que quand la parole est annoncée, ou quand je lis la Bible moi-même, ou quand je prie, Dieu peut me dire quelque chose. Dieu peut me donner une parole qui va faire la différence dans ma vie. Dieu va me communiquer ce qui m'est nécessaire sur le moment, quelque chose qui va me donner à moi, parce que c'est ce dont moi j'ai besoin personnellement. Dans ce que j'ai pu partager avec vous ce soir, il y a des choses qui vous ont interpellé et d'autres pas. Et ce n'est pas forcément les mêmes choses qui vous ont interpellé, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce cœur ouvert et la possibilité de recevoir cette parole, c'est que c'est en l'écoutant. Alors, on va se recueillir ensemble. Peut-être aussi qu'il manque quelque chose à ta relation avec Dieu. Peut-être que là, il y a quelque chose que tu vois chez ceux qui t'entourent, qui sont dans ton groupe de jeunes, qui sont dans ta famille, qui sont dans ton entourage immédiat, et puis tu vois qu'ils vivent quelque chose, mais toi, tu ne l'as pas et tu te dis... Là, ça, j'aimerais bien la vivre. J'aimerais bien faire le même genre d'expérience qu'un tel ou un tel fait. Et la solution, même ça, la solution, c'est de se mettre à l'écoute. C'est de dire, Seigneur, je veux cette parole qui fera la différence. Je veux cette parole qui fait que ça va déclencher quelque chose en moi. Ça va me donner ce à quoi j'aspire, ce que je vois autour de moi, mais que je ne vis pas encore pleinement. J'ai envie d'entrer dans cette dimension. J'ai envie de vivre ça. Alors, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je t'écoute. Je veux t'écouter. On peut être aussi dans la situation de cette brebis. Cette brebis qui était égarée, qui était blessée, qui était éreintée, fatiguée. Et ça peut être notre cas aussi ce soir. D'être fatigué parce qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à s'en sortir. Fatigué parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Fatigué parce que je suis aux prises avec des problèmes et auquel j'arrive pas à me dépêtrer, je peux pas m'en sortir, fatigué parce que j'ai un trait de mon caractère là qui m'empoisonne et qui empoisonne mes relations avec les autres. Et là, on peut vraiment être comme dans cette brebis assoiffée. Et la solution, c'est là encore, c'est d'écouter, c'est de faire en sorte que cette parole que Jésus veut nous partager, nous communiquer, fasse une œuvre. Si tu te sens perdu, si tu te sens égaré, sans doute tu as besoin de recevoir une parole de la part de Dieu, une indication de la part de Dieu, une direction de la part de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu parle, Dieu est vivant. Il ne veut pas nous laisser dans notre désarroi, il ne veut pas nous laisser dans notre tristesse, dans notre fatigue. Il veut nous donner une direction. Il y a peut-être une direction que tu es appelé à recevoir, mais il faut écouter, se disposer à recevoir cette parole. Le problème, il peut être aussi avec la valeur que tu t'attribues. On a vu ensemble Combien on a de la valeur aux yeux de Dieu? Combien on a de la valeur pour Jésus? Est-ce que Jésus a accepté de vivre et de mourir pour chacun d'entre nous? Et avec ce qui t'arrive, avec la situation dans laquelle tu es, tu te poses peut-être la question de se dire, mais est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que vraiment j'ai de la valeur pour Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Parce que pourquoi est-ce que je vis ça? Là aussi, il faut écouter. Écouter pour recevoir cette parole qui va te permettre de comprendre. Écouter justement pour prendre cette direction qui va te permettre de sortir de cette situation. Écouter pour ne pas te concentrer sur ton désarroi et ta tristesse, pour ne pas te concentrer sur ce qui te blesse ou ce qui te fait mal, mais te concentrer sur Dieu, qui lui veut t'apporter sa joie, qui lui veut t'apporter sa paix, qui lui veut t'apporter sa consolation, qui veut agir vraiment par son esprit, au plus profond de toi-même, dans ton cœur et dans ta vie. Alors on va se recueillir simplement, chacun pour soi, se mettre devant Dieu. Parce que la parole, elle a d'intérêt que dans la mesure où elle produit quelque chose en nous. C'est pour ça qu'on va prendre ce temps, méditer personnellement ce qui a pu être partagé ce soir, faire le point en nous-mêmes et écouter pour recevoir ce que le Seigneur veut nous dire, ce qui peut changer les choses. On va prendre ce chant aussi, on va se taire simplement pour entendre la voix du bon berger, celui qui peut nous mener à bon port, celui qui nous ramène à la maison, vivre cette vie de joie, de paix, de partage.